RMC.
I am very happy. I am sure with my staff that a good work for this season.
Le Super Football Show.
We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Ça serait là jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct, bien sûr, l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Ce soir au programme, évidemment, l'équipe de France, on va parler Coupe du Monde, c'est comment ça arrivait, hein? Dans 11 jours. Sur RMC, tous les matchs, bien sûr, vous le savez, dispositif exceptionnel de folie, comme d'habitude. Daniel Riolo est là, Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
Pierre Ducron est là. Messieurs, dames.
Bonsoir.
Pierre, bonsoir. Et un invité ce soir dans notre série des amis de l'after, Jérôme Latta. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir.
Jérôme Latta des Cahiers du Foot. Je suis déjà venu plusieurs fois dans l'after. Mais là, t'es là parce que les Cahiers du Foot renaissent en version papier. Alors avant, c'était un journal.
Ouais. Alors
maintenant, c'est, je sais pas comment le qualifier, quasiment un livre.
C'est une revue, ouais.
Une revue livre.
On appelle ça un MOOC, mais c'est pas
un
très
MOOC.
Joli.
Ouais. Bon, on va en reparler tout à l'heure parce que tu nous raconteras ce qu'il y a dedans et puis, pourquoi maintenant.
Donc c'est pas réellement le journal comme avant qui ressort.
Ah non, c'était un mensuel avant, un format un peu tabloïd. Ouais. Là, on a carrément complètement changé de format et puis c'est pas en kiosque, c'est en librairie. Faut le dire.
Important. T'as raison.
Tu sais que, non, on peut faire une parenthèse tout de suite sur le journal qui n'existe, enfin qui existe. J'ai pensé à vous récemment.
Ah,
bah si. T'as dû. Enfin, je sais pas si tu as pensé aussi au moment de l'affaire du journaliste chopé en douce par Twitter pour des propos.
Ah, Denis Balbir.
Ouais.
D'accord. Oui, bah c'était un hasard assez étonnant parce que c'est tombé le soir même de notre bouclage et on a vu tourner la vidéo alors qu'on était en train de finaliser ce numéro 1.
C'est fou parce que pourquoi tu parles
non,
de
mais je
veux
lui dire tout de suite, c'est fou parce que évidemment ce qui lui est arrivé est dégueulasse parce que on n'aime pas ses procédés même s'il vous a fait beaucoup de mal. Mais sur le coup quand ça lui est arrivé.
Bah attends, les gens qui n'ont pas suivi l'affaire, Daniel.
Bah en fait, dans un des numéros de votre
l'ancienne formule,
à l'époque, des Cahiers du Foot qui faisaient les ballons de plomb, tout ça, bon, on rappelle. Enfin, j'espère que ceux qui nous écoutent savent quand même que les Cahiers du Foot
sont beaucoup plus utiles au football que le ballon d'or, d'ailleurs.
Voilà. Était une revue importante, nouvelle. C'était toute cette nouvelle vague, ce foot et Cahiers du Foot, et puis nous aussi, parce qu'on s'inclut dedans. Et vous aviez fait une rubrique.
C'était une chronique de Jean-Patrick Sacdefiel, qui était un personnage fictif.
Et qui avait dit que Denis Balbir était le Rocco Siffredi des cordes vocales.
Voilà, ce qui était plutôt flatteur pourtant.
Et c'était en plus très drôle. Et voilà, et il avait mal pris, il vous avait fait un procès, c'est ça?
Voilà, c'est ça. On avait gagné en première instance et perdu en appel.
Et ça vous avait coûté beaucoup d'argent.
Ça nous avait coûté un petit peu, et puis surtout toute cette procédure dont on serait bien passé. Mais voilà, c'est très loin tout ça.
Le coup, et c'est vrai. Tu vois, évidemment, je me suis pas réjoui de ce qui lui est arrivé. C'est nul. On déteste ce genre de truc, se faire choper comme ça, c'est horrible. Mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça.
Mais tout le monde y a pensé. Parce qu'en fait, on a parlé de retour de karma beaucoup dans nos mentions Twitter dans les 24 heures qu'on suivait.
Ah, parce qu'en fait, ce qu'il avait fait était pas bien. Ce qu'on lui a fait, c'est pas bien.
Ouais, c'est ça.
Et ce qui vous a fait, c'était pas bien.
Alors,
ça, on n'a pas pour un truc d'une ours comme ça,
détails,
faire un procès, c'est grotesque.
On rentrera dans les détails tout à l'heure, Daniel. Il y aura des avis tranchés ce soir. Pierre avait parlé du milieu de l'équipe de France. Je sens qu'on va parler
pourquoi
de Pogba, je sais pas pourquoi.
Daniel, t'en as pas assez parlé, toi, ces jours-ci.
J'en ai pas du tout parlé, moi.
Ah, d'accord,
très bien.
Ah, ouais.
Okay, très bien. Alors,
Daniel veut parler, lui, d'état alors d'esprit. Vous allez voir qu'il va faire un parallèle entre son sport favori, le football, et son...
Mon autre sport favori.
Le tennis,
sport, on a le droit d'avoir deux pratique, passions dans la vie.
Le sport qu'il pratique vraisemblablement avec...
T'as été à Roland-Garros un petit peu?
Donc le tennis. Donc,
un petit peu, hein. Ouais.
Et puis Jérôme Latta, il va nous parler de fumigène, il nous en a même ramené un, hein, tiens.
Ouais.
On
va pouvoir le craquer, j'espère.
D'habitude, ça se cache dans le froc, là, tu l'as pas.
Oui, mais alors là,
non, on m'a laissé rentrer sans problème.
Ça fait un peu, je sais pas si c'est possible. Parce
ouais,
que,
ouais,
les on va dire, pour le décrire à la radio.
Parle de miniaturisation, c'est pas évident quand même, quoi.
Ah non, non, là.
Ça
non,
se trouve
non,
à la fouille, ça, normalement.
Ouais.
Pour le décrire, alors, ça fait quoi? On va dire,
ça, c'est un modèle de base, c'est une
torche. On peut comparer avec Rocco Siffredi.
Ah non.
Ça dépend à quel moment.
Je sais pas si les employés ont un Rocco.
Ah oui.
Rocco, c'est un 25.
Non, là, c'est 16-17 cm de haut sur, allez, un diamètre.
À toi, là, il était capable de dire un truc, il est 16-17.
Bah attends,
t'es bricoleur ou quoi? Comment tu veux savoir que
Daniel,
ça fait 17?
T'as des enfants?
Je crois qu'on a les...
T'as acheté récemment à la rentrée scolaire un double centi... un double centi... un double... Je vais y arriver. Un double décimètre, merci, 20 centimètres.
Oui, enfin, c'est beaucoup plus grand que ça. Pour savoir.
Si, bien sûr que si. Je suis sûr que tu le mesures, il est pas loin de 16, 17.
Ça ferait, selon Pierre Ducrot, environ 17-18 centimètres.
Ouais, et 3 centimètres de diamètre.
Et donc, voilà. C'est vrai qu'à cacher dans un calbar,
Bon,
on y reviendra.
Et
puis les rendez-vous habituels de l'After Foot international tout à l'heure, actu allemande, actu anglaise, actu belge au programme avec les dernières histoires belges toujours drôles. Marrant, belge dans une sorte de matelas qui, bon, bref, on verra ça tout à l'heure. Et puis le quiz tout à l'heure 23h40 avec à gagner donc la BD Football District de Timothée Osterman chez Flux Glacial, toujours aussi bonne. Et puis on a un direct ce soir, messieurs.
Ah oui.
Espagne-Suisse, oui. Match amical. Que suit Loïc Braillé. Loïc, bonsoir.
Bonsoir, messieurs. Début de deuxième période, effectivement, premier et dernier d'ailleurs match de préparation de l'Espagne sur le sol européen, puisqu'ils ont un deuxième match de programmé contre la Tunisie à Krasnodar, donc déjà en Russie samedi prochain. Ils partent dès jeudi en Russie, les amis espagnols de Lopetegui. Ils mènent 1-0 contre des Suisses bien pâles ce soir. On a eu une petite frayeur concernant Andrés Iniesta qui s'est longuement tenu le genou allongé de longues minutes, mais finalement il a pu se relever, le capitaine de la Roja, donc pas trop de soucis pour lui. En termes de compo, il n'y a pas de Sergio Ramos ni de Isco. Ils ont rejoint la sélection que tardivement ces derniers jours, donc ils n'étaient pas concernés par ce match-là après évidemment leur succès en Ligue des Champions. On a Azpilicueta dans l'axe avec Gérard Piqué, Alcantara, Coquet, Iniesta au milieu, Diego Costa, Silva et Aspas, le joueur du Celta devant, et puis surtout le buteur, un certain Alvaro Odriozola, jeune joueur de la Real Sociedad, 21 ans.
Qu'il est pas mal, lui. Hein.
Ouais, il a arraché sa place dans les 23, un petit peu de manière totalement surprenante, puisqu'il y a encore à peine 18 mois, il jouait en Segunda B, la troisième division espagnole, avec la réserve de la Real Sociedad, et il a franchi les paliers au fur et à mesure des mois, jusqu'à arriver en équipe première, à multiplier les apparitions en Liga, et il a totalement séduit Lopetegui, puisqu'on rappelle que Carvajal, le latéral droit, c'est blessé en finale de Ligue des Champions et on ne sait pas trop dans quel état il sera à la Coupe du Monde. Et ben voilà, ben c'est lui qui a marqué le but, une magnifique reprise de volée à l'entrée de la surface de réparation. Donc voilà, l'Espagne qui mène un but à zéro, et des Suisses qui voulaient une grosse nation pour préparer leur premier choc face au Brésil, ben des Suisses franchement décevants. Bon, il y a Seferovic devant, il y a Shaqiri qui est titulaire notamment, mais pas beaucoup d'occases pour David De Gea qui passe une soirée relativement tranquille. Match qui se déroule okay. Villarreal ce soir, 1-0, 53 minutes en faveur de l'Espagne, 1-0.
Très bien, magnifique. Image Panini de Loïc Braillé sur BFM Sport somptueuse, qui rappelle les grandes heures de l'OM 93, bien sûr.
Et unique, parce que celle-là, pour la trouver dans les petits paquets, faut y aller.
Et voilà, puisque Loïc est le sosie officiel d'Alain Boxich de la grande époque.
Ah, oui, c'est un peu.
Ouais, c'est vrai. Ouais, mais j'y avais pas pensé.
Avant votre Sergio Ramos, vous avez vu l'échange de tweets avec Zlatan ?
Non.
Zlatan qui dit si Sergio Ramos m'avait fait ça, il aurait fini coma à l'hôpital. Et l'autre répond aucune chance, tu joueras jamais la finale de Ligue des Champions.
C'est très bon, c'est très très bon.
Et oui, voilà. Mais Ramos c'est assez extraordinaire, ouais, comme mec quand même.
Premier ravi du soir, celui de Pierre Ducrot, messieurs dames. Attention, ça va parler Pogba, jingle.
Il y a un truc qui m'énerve, Jonathan, par contre, c'est quand t'emploies des mots que je connais pas. Exogène. Tu peux pas dire un recrutement qui vient de l'extérieur.
Magnifique. Ton avis, parce que c'est vrai que c'est le débat après le match de vendredi là, sur Pogba, t'avais un truc à dire, et dans l'after, on peut dire les trucs.
Ouais. Alors je voulais parler d'abord d'un secteur de jeu, le milieu de terrain, plus globalement, mais effectivement quand on parle du milieu de terrain de l'équipe de France en ce moment, on parle forcément aussi de Paul Pogba, donc j'y viendrai ensuite. Quand on parle du milieu de terrain de l'équipe de France, on est obligé de faire une petite parenthèse avec le système de jeu Didier Deschamps, ou les principes de jeu de Didier Deschamps, voilà, qui sont, on le sait, basés, ou en tout cas une préférence sur de l'intensité dans le pressing, sur une densité athlétique, sur pas mal de paramètres où on peut subir, on peut aussi ensuite derrière contrer et jouer très vite vers l'avant, et donc pour ça il faut certaines qualités. Matuidi et Kanté pour moi les ont, très clairement. Kanté en tout premier, voilà, on sait qu'il sera titulaire, et parce qu'il est à son poste indétrônable. Matuidi en a certaines de celles-là, et puis il est en plus le garant d'un certain état d'esprit dans ses principes de jeu. C'est pas que dans le pressing ou avec le ballon ou sans le ballon ou dans le dans les principes de jeu, c'est aussi au niveau de l'état d'esprit. Donc ces deux-là, on est à peu près sûr pour moi qu'ils seront titulaires. Il reste la troisième place. La troisième place, il reste Tolisso ou Pogba pour moi. Voilà, c'est ou un ou deux ou l'un ou l'autre. Tout le monde le sait. Alors, tout le monde en ce moment met Tolisso devant Pogba. Je suis pas loin de penser la même chose parce qu'en ce moment Tolisso a passé un cap et honnêtement a beaucoup progressé sur certains domaines. Ce que je mettrais peut-être en premier, c'est le vice. Il est devenu très vicieux, mais dans le bon sens du terme.
Il était déjà à Lyon.
Il était déjà un peu, mais il l'est encore plus. Et je trouve que ça fait énormément de bien dans cette équipe, au milieu de terrain. Il a progressé également, je trouve, athlétiquement, dans la consistance de ses matchs. Il est très costaud. Et donc, je suis pas loin effectivement de penser, comme tout le monde, que Paul Pogba, malheureusement, en ce moment, vient derrière. Je dis malheureusement parce que quand on parle de principe de jeu Didier Deschamps, ça peut paraître bizarre, mais pour moi, celui qui devrait y être le plus adapté, c'est Paul Pogba. Voilà, celui qui a les qualités normalement, pour moi, naturelles pour mettre de l'intensité dans un pressing, pour être athlétiquement au-dessus des autres, pour être ensuite dans l'utilisation du ballon beaucoup plus rapide, parce qu'il l'a été. On se souvient tous de la grosse période Pogba à la Juventus de Turin. C'est ce qu'il faisait. Il ratissait énormément de ballons. Il avait une zone de destruction énorme au milieu. Il était un peu plus bas. Il n'hésitait pas à aller au charbon également, il le fait beaucoup moins. Il avait cette capacité à casser les lignes par la passe ou en percussion avec le ballon, mais il le faisait beaucoup moins souvent et beaucoup mieux et en partant de plus loin face au jeu. Et puis il avait ce jeu long qui parfois lui permettait aussi d'alimenter les attaquants sur des phases rapides dans le dos de la défense. Donc finalement, tout ça pour dire que Pogba a énormément changé, moi je trouve, et que c'est pas forcément le terrain est juste la résultante de ça, mais que je pense que ça s'est passé ailleurs, ça s'est passé dans son transfert à Manchester, où il a fait partie d'un autre monde. Il est rentré dans un autre rôle. Il a oublié qu'effectivement ses qualités, c'était avant tout de mettre un bleu de chauve sur le terrain et de se battre dans un milieu de terrain pour ensuite, à la récupération de ballon, faire parler ses qualités. Et ça, il le fait plus du tout. Et je pense que s'il veut retrouver une place en équipe de France, je parle même pas pour ce mondial, parce que j'ai presque l'impression que c'est trop tard, malheureusement. Je pense qu'il faut qu'il se remette dans ce qu'il savait faire le mieux, ce qui lui a permis d'arriver presque tout en haut, ce qui lui permettra, s'il le fait pendant plus longtemps que de 2013 à 2014-15, d'être parmi les meilleurs joueurs du monde, comme ce qu'à un moment on avait pressenti pour lui. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai intitulé cet avis tranché, revenir aux bases, revenir au retour aux sources, ou retour à la case départ. J'avais soumis aussi l'idée, parce que ça passera que par là. Et malheureusement pour nous, ou pour lui, ou pour les deux, parce que c'est un joueur formidable, on en aurait bien besoin en Coupe du Monde, je pense que ça prendra un peu de temps, moi.
Donc Pogba, tu le vois pas titulaire, et tu penses que son...
Ouais. En tout cas, pas titulaire tout de suite. Après, il y sera forcément à un moment donné dans la Coupe du Monde. Ouais.
Daniel, d'accord avec Pierre ?
Sur certains matchs.
En fait, j'ai du mal à comprendre, enfin, je sais pas si j'ai du mal à comprendre, mais le mystère dans lequel on s'est foutu avec Pogba. En temps normal... Un mec qui, si tu prends toutes ses prestations en équipe de France, je pense que tu les additionnes, tu fais une moyenne, t'as un joueur moyen sur tous ces matchs.
Ouais, moi je parle globalement. Tu peux
prends tous ces matchs depuis sa première sélection à là.
Non, je parle avec ses performances en club et son histoire en club, qui pour moi effectivement l'ont plus construit que l'équipe de France.
J'ajoute ses deux dernières saisons en club. Mmh. Ou si on est à la moyenne, c'est à l'arrache, quoi. C'est l'étudiant qui chope le bac au rattrapage, 10, vraiment à l'arrache. Et pourtant, on fait débat. Alors que logiquement, avec un tel CV, et étant donné la concurrence et les joueurs qui, quand ils sont alignés, sont bons, ben on devrait pas faire de débat.
Parce qu'il y a un potentiel qu'on a décelé à un moment donné. Énorme. Ouais,
c'est ça, on l'attend
énorme.
Encore, Pogba. Il a 25 ans. Il a 25 ans, son potentiel, personne le met en doute. Et c'est vrai qu'il tarde à le concrétiser aussi bien en équipe de France qu'à Manchester.
Et
mais
comment
c'est peut-être le moment, une Coupe du Monde, qui lui permettrait de passer un cap.
Comment tu vis avec ça, sachant que les autres, eux, se démerdent bien.
Progressent, continuent, avancent.
Que si tu t'appelles Tolisso, Kanté, Matuidi, tu dis, ben, pourquoi je suis pas titre? Pourquoi c'est lui qui part avec l'idée qu'il doit être titulaire? Pourquoi c'est lui dont on parle? Pourquoi c'est lui qui fait débat? Vous pas m'enlever de l'esprit, pardon, que le prix de son transfert joue énormément.
Ah oui, non, mais c'est ce que je te dis, quand il est rentré dans un autre
rôle. Parce que le prix de ce transfert, en fait, est la conséquence de ce potentiel. C'est parce que
c'est la conséquence de ce qu'il a montré pendant deux ans.
C'est deux ans ou trois ans. Ce joueur est considéré comme un futur grand et que médiatiquement on l'a annoncé comme un ballon d'or en puissance, que lui-même a joué le jeu de ce cirque médiatique.
Il est entré dans un rôle, en
s'annonçant comme un futur ballon d'or, en ayant un comportement de star,
en changeant son jeu pour ça.
Qu'il a eu un transfert de star.
C'est ça le pire.
Que il faut pas nier, il a fait de très bon match à la Juve, mais qu'on l'a pas laissé partir en perdant quelque chose, parce que la Juve s'est très bien comportée après son départ. Il y a pas eu de baisse. Tu vois, on peut pas dire qu'il a laissé un trou à la Juve et il s'est passé et on l'a oublié. Eh bien, aujourd'hui, pour moi, c'est un mystère qu'on en parle autant. C'est un faux mystère, parce que j'explique en même temps. Mais
Pourquoi,
y a plus de choses qui sont à côté du foot qui expliquent qu'on en parle autant.
Ça, c'est
totalement le foot moderne.
Mais c'est ça, en fait.
Alors que normalement, t'as des performances qui sont moyennes, mais on va faire jouer les autres.
Pogba, et moi,
je te dis que ce mystère, il nous pousse à quelque chose d'encore plus fou. C'est qu'aujourd'hui, Pogba, on le sait, va démarrer le premier match. Parce que je ne crois pas.
Ah, moi, je suis pas sûr de ça.
Il l'a jamais mis sur le banc, Didier.
Il l'a mis deux fois sur le banc lors des deux précédents tournois finaux, donc ça veut dire qu'il lui accorde pas non plus un statut.
Moi je suis pas sûr de ça non plus.
Alors c'est l'Australie, on va dire l'Australie c'est peut-être l'équipe la plus bidon de
Et
ben
voilà,
trois.
tu vas te retrouver face à ça.
Donc finalement, est-ce qu'il va mettre l'équipe type contre l'Australie? Et là s'il y a Pogba, tu vas dire ah ben là
tu démarres avec ton équipe.
Tu démarres avec l'équipe.
Peu importe le match, tu démarres avec ton équipe.
Moi, très franchement, je suis prêt à parier qu'il démarre.
Parce qu'en fait, je serais presque prêt à parier le contraire.
Ne pas le mettre.
Top les gars, but.
C'est te coller un problème.
Il y a un but au match Espagne-Suisse.
Ouais, Loïc. Égalisation de la Suisse, messieurs, but de Ricardo Rodriguez, le joueur du Milan, après une faute de main de David De Gea sur un centre de la droite vers la gauche. Voilà, le ballon qui lui échappe est derrière Ricardo Rodriguez qui suit correctement pour envoyer le ballon au fond des filets. Donc égalisé, une équipe d'Espagne qui a tendance un peu à s'endormir. Alors il y a une grande revue d'effectifs. Hein, ils ont dû se mettre d'accord les deux sélectionneurs comme ils le peuvent évidemment dans ce cadre de match amicaux avec 6 changements de prévus visiblement. Donc Iniesta qui est sorti, Diego Costa aussi, David Silva également, Lucas Vázquez, Asensio, Saúl Ñíguez sont notamment rentrés et ils se sont fait donc surprendre sur ce coup-là, les Espagnols qui pourtant maîtrisaient largement les débats depuis le début de cette rencontre. On a dépassé légèrement l'heure de jeu, un partout donc entre l'Espagne et la Suisse à Villarreal dans ce match de préparation au Mondial
avec donc, le Valbuena Suisse.
Donc je reprends, t'imagines le problème que tu t'es collé, parce que tu vas démarrer avec, parce que si tu démarres pas avec, vu le statut et la place dans le groupe.
Ouais, mais tu le remets à sa place. Tu le remets à sa place actuelle, je veux dire.
Je termine mon histoire.
Vas-y, mais où il faut
qu'il montre. Je pense que tu te colles un problème. En fait, tu te colles une polémique. Et c'est ce que souvent les sélectionneurs aujourd'hui veulent éviter. Parce qu'ils veulent...
Tu crois qu'ils veulent pas démarrer une polémique? Parce que tout le monde est finalement assez clairvoyant, je trouve, avec ça. C'est que aujourd'hui, Tolisso montre qu'il est plus efficace en ce moment au milieu de terrain avec l'équipe de France que Paul Pogba.
Tolisso, il y a une petite remarque à faire quand même, c'est que il a fait des très bons matchs en équipe de France, mais on a vu aussi qu'il avait un petit peu de mal à tenir ses nerfs, ce qui est pas nouveau. Et en Coupe du Monde, ça pardonne pas du tout. La manière dont il a réagi aux petites provocations des Italiens l'autre soir, ça peut devenir très très vite gênant. Ça peut se déboucher sur un carton.
Tu as raison,
la sanction elle est immédiate.
Tu as raison, sauf que quand alors je parle de vice. On est juste entre les deux, quoi, entre le gros caractère et le bon vice, et puis effectivement perdre ses nerfs. Effectivement, il est souvent sur la corde.
Du vice, c'est garder ses nerfs. On a parlé de Sergio Ramos.
Moi, j'ai trouvé dans les matchs de qualification que justement, il avait été très utile pour ça. Alors, c'est vrai qu'il est souvent à la limite. Est-ce qu'il va y rester ou est-ce qu'un jour il va passer la ligne rouge?
L'avis d'Arthur au 32-16. Arthur, bonsoir.
Salut toute l'équipe, comment vous allez?
Bonsoir.
Ça va et toi?
Bah, ça va très bien. Écoutez.
Arthur, tu es supporter rennais, ce qui te qualifie à parler de Paul Pogba.
Fan de l'équipe de France avant tout, moi je voulais réagir aussi par rapport à vos avis, hein, forcément par rapport à l'avis tranché aussi, à vous dire que je suis d'accord avec votre avis. Et surtout, j'avais eu la chance de l'évoquer l'autre jour dans la team du gars, mais qu'on le mette en danger, Paul Pogba, qu'on le mette en danger, parce que certes on veut éviter ces polémiques. Tolisso, je suis pas fan de l'homme en soi, mais c'est un joueur qui monte et qui est extraordinaire aussi, mais Paul Pogba... potentiellement, c'est le joueur le plus fort de l'équipe de France. C'est le joueur qui peut être meilleur devant Mbappé, Griezmann, devant tout le monde. Il a changé de style de jeu, voilà, comme vous l'avez évoqué, pour espérer être ballon d'or face à son transfert. Mais aujourd'hui, je pense que Pogba
L'as vu quand, ce potentiel en action?
À la Juventus.
Si, moi je suis d'accord avec la Juve, on a vu des gros matchs.
Dans quel match? Réponds-moi.
Je vais pas te ressortir des matchs aujourd'hui.
Daniel, qui va te ressortir des matchs il y a 4 ans?
En gros, de 2012 à 2014, il fait des gros matchs avec la Juve notamment.
Et en 2014, à la Coupe du Monde?
Non, je te parle pas avec l'équipe de France. Moi, c'est vrai que je te disais, je te parlais globalement. Je te parle pas de l'équipe de France. Je te parle effectivement aussi de son
équipe,
changement en club.
Il a une équipe qui, en championnat, domine largement. En Ligue des Champions, il fait également ok quelque, mais il a jamais crevé l'écran.
Je suis d'accord avec toi. Avec la Juve, il faisait pas des matchs à avoir le ballon d'or, mais par contre, tu décelais le potentiel du joueur.
Et ouais, mais ça
c'est
veut
pour
dire
ça qu'on
quoi,
a, qu'on a
ça
misé énormément
mais
sur lui.
Mais comment tu lis tout le temps avec le potentiel?
Le prix des transferts est basé là-dessus.
Mais Daniel, je te dis pas que justement tu dois vivre tout le temps avec le potentiel.
Ce soit basé là-dessus.
Que le potentiel, on l'a vu. Et que malheureusement, il a pas été confirmé parce qu'il a.
Moi, je vous dis que c'est une déformation.
Mais on s'en fout de ça. C'est important parce que c'est à la base, il l'a pas, on n'en parle même pas. Il est pas à Manchester,
c'est
et on en parle même pas.
La déformation du foot moderne, c'est qu'on se fait un avis uniquement sur le potentiel. Et ce potentiel, tu le traînes pendant des années. Le potentiel, Ben Arfa, il l'a traîné 20 ans, putain.
Oui, si tu me confirmes pas.
Oui, mais le propre d'un potentiel, c'est qu'il y a des choses qui l'étayent quand même. C'est-à-dire que tu disais que Pogba, il a pas étincelé en Coupe du Monde ou à l'Euro, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Il a fait des bons matchs à chaque fois. En 2014 et en 2016, il a fait des bons matchs. Donc, le truc, c'est que Pogba, son potentiel, il le laisse toujours
entrevoir. Il a fait des bons matchs. Les autres aussi ont fait des bons matchs.
Oui, bien sûr. Oui. Mais là où t'as raison. On continue à voir, dans ses prestations, le joueur qui pourrait être. Et on continue à espérer, donc, de la part de Deschamps, aujourd'hui.
Est-ce qu'on a ce genre de cas de figure dans les autres sélections?
Oh, je pourrais s'y intéresser, mais je pense que tu peux trouver des joueurs comme ça, ouais.
Mais je sais pas.
En fait, tu as raison, le potentiel, à un moment donné, tu devrais plus t'en occuper. Parce
tout le monde
confirme.
Parle de potentiel pendant des années.
Özil.
Mais Özil avec l'Allemagne, il est toujours bon.
Ouais.
En plus, j'y ai pensé en posant la question.
Verratti avec l'Italie.
Mais il se fait démonter, plus personne veut le voir en Italie.
Oui, alors qu'il y avait un gros potentiel aussi.
Mais ouais, mais il se fait tailler. Il se fait tailler, il est pas essentiel du tout avec la sélection.
Non mais oui, pour parler vraiment de Paul Pogba, je pense que c'est vraiment là, l'année charnière. Je pense que c'est aujourd'hui ou maintenant, Deschamps doit le mettre en danger, doit le mettre sur le banc. C'est inévitable pour qu'il réagisse.
Ouais, comment voilà, il va vivre la mise en danger, c'est un autre problème,
non,
Arthur.
Non, je suis d'accord avec Arthur.
Il vient pas ici pour jouer avec ses potos. On sait que voilà, il est avec ses potes, il voit Griezmann, il voit tout le monde, Giroud, tout ça. Pas de souci. Mais derrière, il faut être compétitif. Nous, on attend quoi de l'équipe de France? C'est qu'elle gagne cette Coupe du Monde. C'est que Pogba soit là, soit présent. Aujourd'hui, Pogba, s'il n'est pas présent lors de cette Coupe du Monde, je serais complètement d'accord avec toi, Daniel, sur le fait que le potentiel qu'il avait, il l'a malheureusement gâché et peut-être qu'il le traînera encore. Ce fameux potentiel. Aujourd'hui, Pogba, il doit y aller. Enfin, franchement, il faut qu'il revienne aux bases et qu'il fasse jouer l'ensemble de l'équipe et pas qu'il vienne juste pour taper des chèques et pour rigoler avec puis danser sur la musique. Non, là, c'est l'équipe de France.
Moi, plus que le potentiel, je préfère constater qu'un mec comme Griezmann est tout le temps bon. Que quand tu fais appel à Matuidi, avec ses qualités, ses défauts, il te fait tout le temps des bons matchs. Que Tolisso, en très peu de temps. Le mec, alors que lui, on lui voyait pas un potentiel à la Pogba, eh ben il répond présent.
Je suis d'accord avec toi là-dessus. Il n'y a pas de souci.
Que tous les mecs, que Giroud, qui est le mec qui a peut-être le moins de potentiel de tous, eh ben il te claque toujours son petit but.
Daniel, s'il te plaît.
Il y a quand même un totem incroyable sur Pogba. Alors après, peut-être il sera bon, j'en sais rien.
Nous dit, il faut le mettre titulaire contre l'Australie, sinon il sera perdu à jamais.
Et voilà, donc. Problème.
Oui, mais non, tu mets pas titulaire un garçon pour ça. Je suis désolé.
Et puis Oumar nous rappelle quand même qu'en 2014, il est élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde.
Il était dans la liste des ballons d'or, l'année 23, etc.
On est d'accord qu'il y a eu consigne capillaire.
Ah, on dirait, ouais.
Moi, je pense qu'il y a eu consigne générale en équipe de France.
Peut-être.
T'as remarqué qu'il n'y en a aucun.
Il n'y a
pas un poil qui dépasse. C'est le retour de Passarella.
Soit il y a eu consigne.
Regarde Griezmann, regarde Pogba, regarde tous les.
Tu sais ce que j'aimerais plus qu'une consigne d'un staff ou d'une fédé ou un truc comme ça.
Moi, je pense qu'il y a eu consigne.
Et ben, moi, j'aimerais que ce soit peut-être dans le groupe où il se soit passé le mot, il se soit dit, écoutez les mecs, vous savez quoi? On va arriver par la petite porte, on est discret, les coupes de cheveux, les vidéos, machin, on met ça de côté.
La dernière fois qu'il était coiffé comme ça, il avait 12 ans.
J'aimerais bien, moi.
Ouais, mais ça lui va bien, tu vois. Ça lui va bien. Et quand on dit retour aux bases, ben moi, à la limite, tu vois, je préférerais le voir comme ça, remettre le bleu de chauffe, la pioche, on l'appelle normalement la pioche, c'est pas sorti comme ça. C'est que pendant des années, il a joué avec ses grandes jambes pour ratisser et détruire le jeu des adversaires. Il l'a fait. Moi, j'ai des images de Pogba dans des matchs. Alors, Daniel, je suis d'accord, c'est loin. Mais il l'a fait à son jeune âge, donc ça veut dire qu'il peut le refaire s'il rebosse, s'il se remet au bon endroit avec ses qualités. J'ai des images de lui avec la hargne sur le visage. Ça fait longtemps que je les vois, ces images-là.
On passe à la suite.
Excuse-moi, Gilles.
Pas de problème. Espagne-Suisse, le point, Loïc Braille.
Il reste 20 minutes à jouer à Villarreal, un partout entre l'Espagne et la Suisse. Audrey Osola qui ouvre le score à la 28e, égalisation des Suisses en deuxième période par Ricardo Rodriguez, et les revues d'effectifs qui se poursuivent surtout côté espagnol là pour Lopetegui. On a fait sortir justement le buteur Audrey Osola, et bon, ça reste un petit rythme, hein, un petit peu comme le Brésil tout à l'heure face à la Croatie à Anfield. C'est pas encore la grande Espagne qui fait quand même partie des favoris pour le mondial, mais voilà, on sent que c'est un match de transition entre la fin de saison de club de la plupart des joueurs qui ont beaucoup joué et la phase finale de la Coupe du Monde qui se rapproche. Partout, il reste 20 minutes.
A tout de suite, Loïc. Dans quelques instants, on est de retour pour parler état d'esprit. Cette fois, Daniel va établir un pont entre le football et le tennis. Que va-t-il se passer, messieurs, dames? On va le voir dans quelques instants. 32-16, hashtag RMC Live. On vous attend sur Twitter, on vous attend sur Direct Studio. Ce soir, Jérôme Latta est avec nous des Cahiers du Foot. A tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show. L'after foot, Gilbert Brébois.
22h30. Sur RMC, on est là bien sûr sur RMC, sur BFM Sport, dans l'after avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo, avec Jérôme Latta, des Cahiers du Foot. Loïc, rien n'a changé entre l'Espagne et la Suisse?
Non, toujours un partout, il reste un quart d'heure, match de reprise, rythme très très limité dans cette rencontre à Villarreal, un partout.
Deuxième avis du soir, celui de Daniel Riolo, messieurs dames, jingle.
Eh ouais, l'arbitre, s'il avait fait ça, et puis nous, si on avait fait ça, et si un pigeon était venu chier sur le ballon au moment où Samson l'avait tapé, il aurait glissé son pied dessus.
Ça, c'était nul.
Pas du tout. C'était encore un soir où les mecs parlaient que d'arbitrage pendant un quart d'heure à se plaindre que l'arbitre ceci. C'était bien l'autre soir, France-Italie, là-bas.
Ouf, m'en parle pas.
Non, mais c'est chouette, en fait.
C'est insupportable.
C'est parce que, en fait, tu regardes l'image pour t'apercevoir que tu te trompes, ouais. C'est génial. Il paraît que c'est un outil. Nico Villas, il me dit que c'est comme un GPS pour le taxi.
Oui, je lui ai dit, il fout le GPS dans le coffre de ta Fuego, il t'envoie toujours, là où il faut pas, ton GPS.
Exactement.
Ouais. Pas fiable. Comme la vidéo.
Donc,
d'accord, Jérôme.
Ah bah ça, là-dessus, oui, ça fait longtemps qu'on milite contre.
Très bien, c'est pour ça qu'on aime les Cahiers du Foot. Donc, tu voulais parler état d'esprit.
Effectivement. Je voulais parler, en plus ça me permet de parler un petit peu de Roland Garros, si tu sais que j'adore ça, tu m'as dit mais comment tu vas faire machin.
Oui, écoute, on a une émission de foot, pas de tennis.
C'est vrai. Mais tu sais, le tennis quand même intéresse quand même beaucoup les gens, et surtout en période de Roland Garros. Même toi, tu étais hier, t'es allé trincer.
J'étais pas allé encore. Non, moi je suis pas allé encore.
T'étais pas encore trincé.
Mais j'ai pas vu le stade, enfin le court plein dans les tribunes. J'étais surpris.
Ah ça oui, j'en ai parlé aussi cet après-midi, mais
même le week-end, tu vois,
ça va m'amener vraiment à d'autres sujets.
Non, j'ai fait une étude sociologique du public très intéressant hier, entre les différents matchs. Qui reste, qui part.
C'est toujours hyper intéressant, Roland Garros, d'un point de vue sociologique.
Et alors, quand Serena Williams joue, il se passe un truc. Invasion d'anglo-saxons sur tout cela. Les Français se cassent, comme s'ils s'en foutaient quand même. La meilleure joueuse de tous les temps.
Comment tu fais ça? Parce qu'ils courent pour aller voir les Français sur les
cours.
Parce que tu vas voir.
Ah oui, quand tu étais d'accord.
Les Français, s'il y a un Français, ils vont le voir, même s'ils l'ont jamais vu, même s'il est 200e et tout.
Donc les gens, ils vont voir un Français 200e plutôt que la meilleure joueuse de l'histoire.
C'est fort possible.
Bon, bref.
Génial. On va pas se plaindre si c'est un peu de...
Extraordinaire. La combinaison de Serena, fabuleux.
Du coup, je fais une petite parenthèse. Elle arrive sur donc. Ce qui est fabuleux, en fait, c'est de la télé-réalité, Serena Williams. Donc t'as le box là où il y a son entraîneur et tout. Donc t'as sa mère qui arrive. Après t'as son mec entouré par 2-3 potes à lui qui font tous 150
kilos. C'est bien, il faut des stars comme ça, c'est bien.
Derrière t'as Morato
génial, Serena.
Qui arrive, qui check tout le monde. Enfin, en fait, le cours est à elle. C'est-à-dire que la pauvre adversaire...
C'est pas le jour où il y avait Mike Tyson?
Et il y avait Mike Tyson qui était venu
génial, c'est la classe.
Non, Mike Tyson, c'était pas hier?
Oui, c'était hier. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'as le pauvre entraîneur de la pauvre joueuse allemande. Il était dans un coin du box. Genre, il disait, que je fous là? Pour coloniser par les Williams. Enfin bref. Bon, c'était intéressant.
Non, mais Roland Garros, c'est un grand chelem. C'est une épreuve importante. C'est un phénomène social dans notre pays. Donc c'est important d'en parler aussi. C'est quand même beaucoup les gens. Alors pourquoi ce parallèle que j'avais envie... Ah quand même. Si. Hier, je me suis dit, en voyant les Français tomber les uns derrière les autres et constater que donc il n'y en aurait aucun en huitième de finale pour la première fois depuis 2007, et si tu mets bout à bout ce genre de record négatif, on aboutit à un constat d'échec assez terrible pour nos joueurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça serait si c'était nos footeux? Alors, très calmement sans revenir absolument sur tout ce que j'ai dit, parce que l'important c'est d'être juste, et moi j'y suis jamais allé de main morte quand il fallait taper sur nos footeux et leur attitude, mais il faut bien dire une chose aujourd'hui, j'en avais parlé déjà récemment et tout, mais quand tu vois notre équipe de France...
Oui, ils tiennent très bien.
Non mais même, il y a pas besoin, j'ai pas besoin que ce soit, tu sais, des élèves au tableau.
Globalement, ce qui se dégage
de l'équipe, c'est super positif. Les mecs ont un super état d'esprit. Non, on a quand même ramé avec des équipes de France, avec des mecs arrogants, des mecs pas bien, des mecs pas cool, qui donnaient pas tout sur le terrain. Tu sentais les petits clans, les machins. Là, tu sens vraiment. Alors après, je parle pas. On peut très bien ne pas aimer le style des champs, on peut très bien aimer ne pas aimer tel ou tel joueur titulaire ou quoi que ce soit, peu importe. Mais ce qui se dégage du groupe, c'est bien, il y a un bon état d'esprit, les mecs blaguent quand ils viennent en conférence de presse, il y a un peu du recul, t'as Griezmann qui blague sur le fait, bah, vous voyez bien qu'on est des fashion victimes, vous voyez quand on arrive, quand on fait le défilé, qu'on descend de la bagnole, il y a une sorte d'autodérision, un peu de recul. Toi t'as dit qu'ils se sont un peu calmés sur les coupes de cheveux, pourquoi pas, effectivement. Rami.
Non, je te dis qu'il y a eu les consignes.
Rami, c'est
Rami, ça rejoint un bon état d'esprit. Je pense que ça, c'est peut-être les joueurs entre eux qui...
Non mais il y a quelque chose de vraiment positif. Mmh. Enfin, on est loin des années noires. Il y a eu, je sais pas s'il y a eu un travail, ou s'il y a eu une prise de conscience.
Il y a eu une génération à un moment donné où il y avait 4-5 éléments.
Alors, est-ce que c'est ça qui fait que ça a amélioré la génération d'après? Est-ce que les mecs se sont dit, ouais, vraiment, l'image de l'équipe de France,
elle était... Mais
les sondages étaient terribles à une époque sur qui soutient l'équipe de France. Est-ce que vous les aimez pas? Là, ne pas aimer l'équipe de France, que tu dis, j'aime pas comment elle joue. Ok, mais t'as envie de la soutenir. Coupe du Monde démarre. Je pense que tous les Français ont envie d'être derrière les Bleus. Alors, ils ont peut-être des réticences, toujours pareil, sur des champs. Mais tout ce qui se dégage, moi, je trouve que c'est très positif. Alors qu'à une époque, on était très dur. Je vois nos joueurs de tennis qui, eux, ont toujours bénéficié d'un crédit démesuré, parce qu'il n'y a pas de médias qui parlent de tennis. Et puis, de toute façon, les journalistes tennis et les joueurs se mangent dans la main mutuellement et ils ne diront jamais rien sur leurs petits copains avec qui ils passent l'essentiel du temps sur le circuit à se rincer ensemble. Donc, rien du tout. Mais à côté de ça, il faut quand même le dire, eux qui se croient champions du monde...
Précisons que Daniel et moi, on a suivi des tournois de tennis quand même.
Oui, non, mais j'ai pas fait que ça. En plus, dans mon dernier livre, je me suis vraiment intéressé de près à la question. Bon, bref, eux qui se croient champions du monde parce qu'ils ont gagné la dernière Coupe Davis en bois, là, en battant personne, c'est pour la plupart une bande de petits capricieux qui ne supportent aucune critique. Parce qu'il faut voir ce qui se passe quand tu les critiques, même sur les réseaux sociaux, certains n'hésitent pas à répondre. Toute cette petite famille se serre les coudes, pour un petit peu comme dans le foot il y a quelques années. En revanche, quand c'est du off, tous se tailler les uns les autres, notamment certains qui ont des propos d'une violence que je ne répéterai pas, parce que je ne peux pas, même sur Noah, sur quand même le seul mec qui est le totem du tennis français, parce que sans lui, il n'y a rien, hein, c'est un désert absolu. Hein. Moi, je veux bien qu'on dise maintenant il est un peu vieux, maintenant il est peut-être un, mais n'empêche que sans lui, il n'y a que dalle. Voilà. Bon, et la plupart, là, il nous fait chier, l'autre machin. Attitude, mais pourrie à tous les niveaux. Leur comportement hier sur les cours, l'autre Gasquet, il prend une tartine dans la gueule, dans tous les sens. Alors on me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Les commentateurs, c'était délirant comment ils étaient gentils.
Enfin, il a perdu, il a été mauvais, mais
il a une attitude déplorable.
C'est vrai.
Il rentre perdant. Bolelli, qui est au-delà de la 100e place mondiale au premier tour, il s'est battu contre Nadal. Évidemment, Gasquet, il est à 9,5 sur 10, il va perdre contre Nadal. Mais bats-toi, fais quelque chose. Arrête d'avoir cette attitude de victime permanente.
Ah oui, là-dessus.
De toute façon, c'est pas que contre Nadal, c'est tout le temps. Les mecs, ils arrivent à Roland-Garros. Oh, j'ai peur. Oh là là. Et puis, pas sur le central. Je préférerais qu'on joue sur le Lenglen. Parce que comme ça, on me verra pas trop. Parce que comme ça, les gens, ils pourront pas trop. Mais Gasquet veut pas jouer sur le central. Il a peur du central. Il demande tout le temps à jouer sur le Lenglen. Tout le temps. Bon, des fois, on peut pas. Les programmateurs lui disaient, là, quand même, c'est là, on va t'y mettre, quoi. Mais tous, autant qu'ils sont. Et mon fils contre Goffin, t'y étais. Alors, on peut aimer le show, mon fils, parce que c'est quand même un des seuls qui, de temps en temps, essaye.
Très, très énervant.
Mais, au bout d'un moment, arrête, quoi. Arrête, t'étais grotesque hier. Au bout d'un moment, je regardais, j'ai été, d'abord, je me dis, allez, peut-être il va nous refaire un show, mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, je dis, mais Goffin, il y a eu une attitude exemplaire, qui s'est battu alors que le contexte était vraiment négatif, mais j'avais envie d'applaudir Goffin. Je dis, toi tu t'es battu comme un lion, toi t'étais dans un super état d'esprit. L'autre, il a vrillé au bout d'un moment. Il a vrillé à essayer de perdre du temps, essayer de machin, de ceci, de cela.
Revenons au football.
Ils sont hyper, hyper protégés. Et à une époque, au foot, on était très, tu veux dire, ton propos était de mettre en lumière
ce qui se passe, enfin, en miroir ce qui se passe au foot et au tennis, et de dire finalement au foot, on est bien.
Ces mecs-là, au foot, ont souvent joué.
Ne continue pas ton modèle. J'aimerais quand même l'avis de
Ils ont quand même une sale image, on leur tapait dessus. Mais moi le premier. Mais je pense à juste
titre. L'attitude générale des footeux, là.
Oui, on est souvent,
c'est surtout ça qui nous intéresse.
Il y a toujours des problèmes, des épis phénomènes.
Oui, bien sûr, bien sûr. Je dis pas que tout est rose, dans les clubs et tout.
Mais effectivement, je suis d'accord que sur l'aspect général, ça s'est beaucoup calmé quand même. Après, est-ce qu'il y a une explication autre que à
et
une
surtout
époque
en équipe de France.
À une époque en équipe de France, je pense qu'il y avait 3-4 éléments qui en entraînaient une dizaine d'autres et que malheureusement, c'est ce qui a fait beaucoup que l'équipe de France à un moment donné a été une cote de popularité désastreuse parce qu'il y avait des raisons pour. Après le tennis, moi je suis pas assez pour je vais faire confiance à Daniel, mais je suis pas assez le tennis pour juger ce que les uns ou les autres font.
Jérôme,
peut-être que ça va leur servir de leçon comme au foot.
Le constat sur nos footeux, tu fais le même?
Bah, par rapport au tennis, je peux pas dire grand chose parce que j'ai un peu arrêté de suivre avec la retraite de Yannick Noah, donc ça date un petit peu. Ce qu'il faut dire sur l'image de l'équipe de France, c'est qu'elle est quand même sous contrôle étroit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est difficile de dire, je sais pas s'ils ont peut-être une meilleure mentalité aujourd'hui. Effectivement, c'est vrai que les images qu'on perçoit, moi je regarde tous les jours les petites vidéos de la FFF, c'est assez marrant parce qu'on a un petit peu de l'intérieur, ça permet de ressentir un petit peu.
Mais je trouve que c'est positif. Même si c'est contrôlé.
Ces petites vidéos-là, tu n'entendras jamais de la polémique.
Évidemment, on sait que c'est contrôlé, mais tu devines des choses.
On voit des petits gestes, des choses sympas qui donnent l'impression que le groupe vit bien. Alors, il le répète à l'envi. Oh, effectivement, c'est vrai que la communication depuis que Deschamps est arrivé, avec tous les soucis qu'il y a eu, elle est sous contrôle et c'est assez lisse, on va dire. J'ai regardé justement sur les vidéos de la FFF, c'est vrai, une conférence de Lloris, c'est quand même très difficile à suivre, même 4 minutes, c'est...
Lloris, c'est vrai que bon,
c'est l'extrême. Mais je crois que Pogba, il va plus en conférence de presse.
Non, mais par contre, là-dedans, ce qu'on peut dire sur le contrôle de, notamment des petites vidéos, c'est la POC série qui devait avoir lieu. Vous rappelez, là, il avait annoncé que ça aurait lieu. On la voit plus.
Il y a eu 3 épisodes.
Ouais, mais ça s'est arrêté après. Ouais. Et moi, je me demande si là aussi.
C'était sur Canal uniquement, ce truc.
Ouais, mais il n'y avait pas plus d'épisodes prévus. Il nous avait pas annoncé qu'il y aurait régulièrement des, c'est
POG mondial, hein, ça s'appelle.
Ouais, moi, je me demande si finalement, c'est pas, c'est ça aussi, on n'a pas demandé gentiment d'arrêter ce genre de choses. Peut-être. Je sais pas, hein, peut-être que je me trompe et que ça va reprendre pendant le mondial, mais j'aurais trouvé bien de ne pas spécialement faire ce genre de choses.
On a Driss au 32-16. Driss, il suit le tennis et le foot. Donc, on va voir si il est d'accord avec Daniel. Salut Driss.
Ouais, salut Lafter, comment ça va?
Ça va et toi?
Salut, bonsoir.
Ouais, très bien. On s'était vu Daniel et Gilbert à Lafter à Nantes. Il y a quelques années.
Ouais, il y a quelques années.
Ouais, là, c'est un peu loin quand même, mon vieux.
Ouais.
C'était sympa, il y avait du monde, je me souviens, à Nantes.
Ouais, j'étais à côté de toi, le sosie de Jamel Bourras, tu me disais là.
Ah oui, Si.
Juste avant, passe un bonjour, un grand bonjour à Colombe, le 9 de la Harlière et à Youssef, des fidèles de la Sœur.
Donc, ton avis?
Moi, mon avis, c'est que le parallèle de Daniel Riolo, il est évident. Évident parce que ce qu'on en fait des joueurs de tennis, dès le départ, c'est le potentiel. 15 ans, Gasquet, on le met en tant que futur numéro 1, à 15 ans. Mm-hmm. Voilà. Dans le foot, on l'a vu des dizaines et des dizaines de fois. Là, moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est Benoît Paire. Benoît Paire, en 2013, ça fait 6 ans, il a fait une demi-finale à Rome. Il avait battu 2 tocards, 1-5-6, pour ceux qui connaissent le tennis, il est arrivé en demi-finale. 2 semaines après, il y a Stade 2 qui fait un grand reportage, est-ce que c'est lui le successeur de Noah?
Oui, là, mais attends, t'as aussi eu Marvin Martin, futur Zidane, ça existe aussi dans le foot.
Eh ben, c'est exactement ça, sauf que Marvin Martin, il a pas serré Scheim, il a serré une vendeuse de Decathlon de
non, c'est pas...
Mais pour revenir à ça, ouais, pour moi, Daniel Riolo, il a absolument raison là-dessus. Le parallèle, c'est d'enflammer les jeunes très tôt, quoi, en fait.
Tu veux dire, voilà, après, faut pas les enflammer trop tôt.
Voilà.
Ouais, mais au-delà de ça, même le comportement global, quoi. Le comportement global, il dégage absolument rien de positif. C'est des chouilleurs de première catégorie, des capricieux.
Là, tu parles du tennis, là.
Moi, où c'est que je vois ça, c'est dans, par exemple, Gaël Monfils. Gaël Monfils, lui, c'est pareil, un gros potentiel depuis des années. Je crois qu'il a gagné 8-9 tournois. Il a perdu 25 finales. C'est un faux cool. Bento, c'est un mec qui vient souvent sous votre antenne. C'est un mec bien, il a un bon joueur. Zéro titre pour je sais pas combien de finales. Il y a jamais eu ça dans l'histoire. Ils n'ont pas ça dans la tronche. Et puis pour finir, je voulais avoir votre avis, parce que toi, Gilbert, sur Twitter, t'es beaucoup sosie. Stan Wawrinka, c'est pas un peu le sosie de Kevin Berrigo?
Si, c'est pas cool. C'est pas mal. Peut-être en plus fin, Berrigo.
Ouais, bien sûr.
Ouais, ça marche pas mal.
Ok, ça marche.
Salut Riz, à bientôt. Ouais.
Salut.
Mais est-ce que la lose, ça caractérise, je connais pas assez le tennis encore une fois, mais est-ce que ça caractérise pas un peu les tennisman français? Parce que à l'époque où je le suivais, il y avait Pascal Porte, je sais pas si vous vous souvenez.
Oh, c'est un mec brillantissime. Là, tu nous emmènes loin. Mais oui, je me souviens. Oui.
Il était brillantissime, mais il avait aucun mental. Il perdait dès que ça devenait un peu dur dans les confrontations, il perdait. Donc lui aussi, il a pas gagné beaucoup de titres. Noah, il a gagné un titre du Grand Chelem. Lecomte, il en a pas gagné.
Noah, il a gagné un paquet de tournois quand même. Hein.
Oui, il a gagné des tournois, mais on a l'impression qui restait un peu en dessous de son potentiel. Donc, il y a une génération de tennisman assez extraordinaire. Mais ce qui les caractérise, c'est qu'ils plafonnent, ils n'arrivent pas dans le top 3.
C'est extraordinaire, parce que finalement.
Si, un mec comme mon fils, c'est important. Bon, après, pour te la faire très simple, sur cette loserie globale, il faut juste que tu saches que ça fait un an ou deux qu'on a pris conscience qu'il fallait absolument, dans l'enseignement du tennis, introduire le mental.
On était
les plus forts pour travailler sur la technique, avec les mêmes livres et les mêmes enseignements depuis des années. On a simplement varié avec la tactique. Après, on s'est dit les Espagnols.
Comme dans le foot, on s'est dit les Espagnols ont la grinta, comme dans beaucoup de sports, Daniel. Finalement. En France.
Oui, mais moi je te parle de celui-là.
Oui, non, mais
l'enseignement
et l'importance du mental, ça n'existe pas dans l'enseignement du tennis, qui est quand même hallucinant.
Ce qui est juste fou.
Peut-être un jour on créera un after tennis, je sais pas, sur rmcsport.fr. Non, mais ça peut être sympa.
Il y aurait mille trucs à raconter tout au long de la saison.
Loïc Braillet. Espagne, Suisse.
Les 10 dernières secondes du temps réglementaire, un partout entre l'Espagne et la Suisse, un dernier coup franc pour les Espagnols qui ne donnent rien. Alors peut-être un petit peu de temps additionnel, on va voir. Attention, ce ballon récupéré quand même par les Espagnols dans les 16m50. Ballon qui est brossé, qui n'est pas cadré. La part des Espagnols. Il n'y a pas eu tant de casse que ça dans cette rencontre pour les Espagnols. Vrai match de reprise, un partout. Et donc les toutes dernières minutes de cette Espagne-Suisse.
À tout à l'heure. Je vous signale que le Pérou, futur adversaire de la France, a battu l'Arabie Saoudite ce soir 3-0.
Il se balade. Putain, on a les jetons là.
On reparlera du Brésil qui a battu de la Croatie 2-0.
Le Pérou, ce sera pas facile. Ouais, ça sera pas facile. Et moi, je le mets comme une de mes surprises au Mondial. Tu verras. Un petit huitième ou un petit quart de finale.
Donc ça sort du groupe avec la France.
Ma surprise, c'est la Pologne. J'ai fait mon truc, mon tableau cet après-midi. Prédicteur. Vous allez sur RMC Sport.
Bon, moi, ma surprise, c'est la France sort pas de la poule.
C'est une mauvaise surprise.
Allez, à tout de suite. Jérôme Lata veut parler des fumigènes. Il en a ramené un. Il n'a pas le droit de l'allumer dans le studio de l'after. Ah non, c'est Noël Legrette.
On est dans un stade.
À tout de suite.
Moi, je vais le craquer.
RMC, le super football show. L'after foot, Gilbert Brébois.
Daniel Riolo est là, Pierre Dutroux également, Jérôme Lata des Cahiers du Foot et Loïc Braillet. Est-ce que c'est fini entre l'Espagne et la Suisse, Loïc?
Dans une poignée de secondes, il y avait 3 minutes de temps additionnel et c'est terminé à l'instant même. Match nul donc pour les Espagnols face aux Suisses, un partout. But d'Odriozola pour les Espagnols, égalisation de Ricardo Rodriguez. On rappelle le groupe de l'Espagne, groupe B, Portugal, Maroc, Iran. Pour les Espagnols qui défieront en premier les Portugais le 15 juin et la Suisse, gros morceau, Brésil, Costa Rica, Serbie avec les Brésiliens en premier le 17 juin. Un partout, score final.
Merci Loïc, bonne soirée. Attention messieurs, dames, avis fumigène tout de suite avec Jérôme Lata. Je crois pas qu'on ait eu le temps de te faire un jingle. Hein. Tu vois, parce que bon.
C'est pas grave.
Donc pas de jingle Jérôme Lata. On aurait pu mettre un petit bruit de fumigène craqué, ça fait un pshhh. Enfin, jingle Lata, pshhh. Donc. Pourquoi est-ce que tu veux nous parler de fumigène?
Mais parce que hier Noël Legrette a piqué une colère à l'Assemblée générale de la fédération. Mmh. Il a dit les fumigènes c'est terminé. Et il a dit je demande à la Ligue dès la rentrée d'interdire complètement les fumigènes. Alors
Ce qui est déjà le cas.
Ils sont déjà interdits. Ouais. Donc interdire complètement, je sais pas comment on fait. Mm. Et puis je sais pas comment on interdit quelque chose qui de toute façon est d'usage courant. Donc là, je pense qu'il prend le, il prend pas le problème par le bon bout. Il a dit aussi, un patron de club est un patron et son stade doit être propre, vierge de cris racistes. On voit pas le rapport avec les fumigènes.
Ouais.
Mais lui, il fait quand même l'amalgame puisqu'il poursuit en disant, tout ce qui est fumigène, si on en voit un, je vous donne ma parole d'honneur que la Fédération française prendra le dossier en main, quels que soient les textes. Alors là, il dit en gros que les textes.
Le...
Oui, voilà, il va faire ses propres textes. Bah, on sait qu'il s'arrangeait déjà à la fédération avec les règlements sur les agents, par exemple. Vous savez, dans Cache Investigation, il y avait eu cette phrase. Oui, non, mais il est sympa, lui, en parlant d'un agent qui avait été condamné, qui aurait pas dû exercer. Voilà, prendra le dossier en main, quels que soient les textes, et ajoutera peut-être des pertes de points. Alors, on sait que les retraits de points, c'est ce qu'il y a de moins populaire, c'est ce qu'il y a de moins, ce qui est plus impossible à gérer en termes de sanctions, sachant qu'aujourd'hui,
c'est débile, quoi.
Les sanctions qui sont prises, c'est des sanctions collectives. Là aussi, sur le fond, si on parle de droit, c'est extrêmement problématique, c'est complètement inefficace. On a eu un record cette année, cette saison de huis clos partiels, de tribunes fermées, de parcages fermés, d'interdiction de déplacement.
Alors, ça, c'est plus le fait des préfets que de la fédé, hein, faut le préciser.
Oui. Alors, il y a une co-responsabilité, dans l'histoire. Mais le fait est que les fumigènes cristallisent vraiment toutes les tensions entre les supporters et les clubs, les instances, la Ligue, la commission de discipline.
La Ligue, son combat numéro un, c'est aussi les fumigènes. Donc ça rejoint le GRED.
Oui, tout à fait. Et la crispation est totale. C'est-à-dire que d'un côté, on en fait un espèce de casus belli de la part des instances et de l'autre côté, de la part des ultras. Bah, ça devient de plus en plus une sorte de levier de provocation, de mobilisation et d'affichage de leur volonté de lutter contre pas seulement la répression des fumigènes mais la répression globale dont ils sont l'objet, parce que avec cette volonté en fait du football français, des autorités, des pouvoirs publics, des forces de l'ordre, des préfets qui interdisent les déplacements notamment, il y a une volonté de pas gérer les supporters. C'est-à-dire que des déplacements qui sont possibles et qui se passent très bien dans la plupart des pays de football,
on préfère les annuler.
On préfère les annuler, on préfère ne pas gérer le problème. Bien sûr. Après, on se retrouve à devoir gérer une finale de Coupe d'Europe comme à Lyon, et on s'en fait une montagne où on a vu lors de l'Euro 2016 qu'il y avait une certaine impréparation de la part des forces de l'ordre, avec des doctrines de maintien de l'ordre qui n'étaient pas du tout adaptées à la gestion de nombreux supporters en déplacement.
Bah, le fumigène, c'est un peu pareil, en fait. On préfère Il y a deux problèmes pour moi là-dedans.
Tu joues avec le fumigène que nous a ramené Jérôme. Ça veut dire que Jérôme, toi, tu serais pour une utilisation, peut-être encadrée des fumigènes dans les stades.
C'est ce que revendiquent les ultras. Alors, il y a des expériences qui sont menées. Il y a un Danois qui a mis au point un fumigène sans chaleur, qui fait un petit peu moins de lumière, un petit peu moins de fumée, mais qui est quand même intéressant, qui peut être développé, qui a été testé, notamment, je crois, par la fédération
fumigène électrique.
Voilà. Il y a aussi des
fédérations. Aux États-Unis, t'as des pompes à fumigène.
Ah oui.
C'est-à-dire que t'as les tuyaux dans la tribune.
D'accord, oui, c'est
ça. Ouais. Ça sort une fumée, en fait.
Mais on le voit dans les animations.
Dans une boîte, quoi, tu vois.
Les remises de coupe, les cérémonies d'avant-match, on voit ce type de dispositif. On voit de la pyrotechnie. À Lyon, avant la finale, il y a eu des feux de Bengale assez impressionnants avant que les supporters marseillais, effectivement, sortent eux-mêmes leur propre fumigène.
Si, après tout, s'il y a un artificier dans une partie de tribune que lui-même a sécurisé et que lui-même utilise un fumigène, en quoi il y a danger, au fond?
Bah, alors le danger aujourd'hui, c'est que avec les fumigènes classiques, bon, ça c'est une torche, hein, parce qu'on a fait dans le numéro 1 de notre revue, on a fait un descriptif, parce qu'on parle tout le temps des fumigènes, mais finalement l'objet, on le connaît pas trop, quoi. Donc le plus commun, c'est une torche, c'est ce qui fait, alors, il y en a différentes couleurs, ça fait de la fumée et de la lumière. Alors ça, c'est un modèle qui m'a été conseillé par un ultra toulousain, voilà, avec une poignée intégrée. Voilà, qui permet de le brandir sans se brûler, puisque le danger, il vient effectivement que l'incandescence est très forte, donc ça monte à des températures très élevées qui sont potentiellement dangereuses. Là, il y a une petite goupille, on tire dessus, il y a un temps de latence, on a le temps de le brandir, et là ça prend...
Alors, tu t'as acheté ça où?
Alors, sur un site polonais spécialisé, où il y a un très grand nombre de modèles. Alors
C'est là que vont les ultras?
Mais ils vont notamment là, oui. Alors il y a d'autres sites. À une époque, ils pouvaient se fournir dans les magasins d'équipement pour les bateaux, puisque
c'est pour les marins.
Exactement. Mais c'est devenu un petit peu plus difficile. Alors qu'il y a des sites spécialisés pour les ultras. Avec
les ultras de Metz, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de mecs en bateau à Metz, tu vois.
A priori, oui. Il y a peu de magasins de nautisme. Alors ils peuvent aller sur ce site polonais, effectivement, où il y a un très grand nombre de modèles. Alors c'est assez marrant parce que chaque modèle, il y a une vidéo de démonstration pour avoir une idée très précise de l'effet obtenu.
Bon, donc toi, les propos de Le Graët t'ont dérangé, quoi.
Oui, c'est être à côté de la plaque, c'est pas vouloir gérer le problème, c'est aller augmenter les crispations là où elles sont les plus fortes, c'est une absence de volonté de dialogue totale. Mais je pense qu'il va même mettre les clubs en porte-à-faux, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui, eux, sont emmerdés par les sanctions financières. Là, l'Olympique de Marseille, je crois que c'est 800 000 euros sur la saison, LFP et UEFA confondus, en termes de sanctions pour usage de fumigène. Alors qu'il y a des marges de négociation. Un usage encadré, sécurisé, des fumigènes sans chaleur, il y a de quoi négocier, il y a de quoi renouer le dialogue. Un dialogue qui, d'ailleurs, est
totalement rejeté par la Ligue.
C'est très paradoxal parce qu'il y a des messages très contradictoires. Il y a un nouveau directeur de la Direction nationale de la lutte contre le hooliganisme, qui a affiché, contrairement à son prédécesseur, une volonté de dialoguer avec les ultras, au travers notamment de l'INS, l'Instance nationale du supporterisme, qui est un lieu de dialogue où il se passe des choses intéressantes, où on aborde les problèmes rationnellement, sans gesticulation et sans volonté d'aggraver les choses. Donc dans ce sens-là, ça va plutôt bien. Il y a également Nathalie Bois de la Tour qui a eu des déclarations plutôt positives dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, on a des messages complètement contradictoires, à commencer par celui de Noël Le Graët, là, qui a piqué son coup de gueule, peut-être un peu avec un peu de démagogie, mais sans considération pour le fond des problèmes.
Quoi. Dans quelques instants, on aura Abdel, ancien ultra au PSG, avec nous au 32-16. Daniel, tu as un mot à dire là-dessus ?
Je ne sais pas.
Très bien.
Je ne sais pas, ça me laisse perplexe.
Ah, moi, il y a deux choses.
J'aimerais, et en même temps, je ne sais pas. Je trouve ça bien et pas bien. J'arrive pas à avoir une idée.
Là, tu parles de l'utilisation des fumigènes.
Oui, de l'utilisation.
Tu parles pas des propos de Noël Le Graët.
Ah non, mais le propos de Noël Le Graët, moi, je l'écoute plus depuis longtemps, Noël Le Graët.
Moi, il y a deux choses là-dedans qui me dérangent. Et là, c'est qu'on interdise purement et simplement le fumigène, alors que moi, quand j'étais joueur, j'ai adoré ça. Donc, effectivement, faut l'encadrer, faut le faire bien pour éviter tout ce qui peut y avoir de négatif dans l'utilisation de
les dangers, quoi. Voilà
tous les dangers qui peut y avoir liés à ça. Alors ça va peut-être un petit peu aseptiser le truc, mais au moins il y en aura toujours, parce que moi je trouve que le bruit, la couleur, les chants, ça fait partie d'une belle ambiance dans un stade.
Et puis, c'est utilisé dans les bandes annonces promotionnelles des diffuseurs ou même de la ligue.
Oui, bien sûr, c'est un argument qui revient souvent dans
Moi, les propos de monsieur Le Graët me dérangent déjà pour ça, et puis ce qui me dérange aussi, moi, c'est que maintenant on va, en plus de sanctionner financièrement des clubs, on va leur enlever des points. Alors là, c'est extraordinaire, si on commence à enlever des points à des clubs. Non, mais c'est pour prouver la bêtise, parce que tu sais quoi, à ce moment-là, les ultras parisiens vont envoyer 3 ou 4 mecs avec des fumigènes dans les tribunes adverses pour qu'on enlève des points. Si on veut fausser un championnat, on s'y prend pas autrement. Enfin, c'est juste
dans quelques instants, la fin de ce débat avec Abdel, et puis on parlera des cahiers du foot. Vous saurez tout sur l'Angleterre, sur la Belgique, sur l'Allemagne ce soir, plus le quiz, c'est l'after jusqu'à midi. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot.